Nicolas Poussin, donc très mystérieux comme, comme artiste, même comme homme. Donc il a peint jusqu'à environ 260, on lui donne 260 œuvres.
Alors c'est un cas compliqué quand il s'agit de recenser les œuvres. L'un des grands spécialistes de Nicolas Poussin, Pierre Rosenberg, qui a dirigé le musée du Louvre, prépare pour l'année prochaine le catalogue de ses peintures. Donc on refera le compte à cette occasion. Mais c'est un peintre auquel on a eu tendance à attribuer beaucoup d'œuvres, comme c'était l'un des plus grands peintres. C'est toujours valorisant de lui attribuer des œuvres, que ce soit dans les musées, dans les collections privées, sur le marché. Et c'est un peintre qui n'a pas tant produit que ça, parce qu'il mûrissait très longuement ses compositions. Alors, pas tellement dans cette première période que j'évoquais à Rome, mais par la suite, il va peindre des tableaux de manière très, très longue et lente, même pour l'époque. C'est particulièrement long comme genèse.
Et surtout aussi difficile de savoir le nombre d'œuvres qu'il a pu faire, sachant qu'il y en a une partie qui a été détruite parce qu'elles étaient... Cette partie d'œuvres détruites qui concerne l'exposition parce que ça parlait d'amour, donc il y avait des œuvres qui étaient érotiques et c'était... Alors quand on dit érotique, maintenant on dit « Oh, érotique, c'est quand même bien gentil », mais pour l'époque, quand c'est Rome avec l'Église qui dirigeait un petit peu la façon de penser, c'était quand même...
À toute époque, à ces contradictions, hein, on peut afficher un certain puritanisme de manière officielle. Et puis, dans la vie privée, être plus libéral, on va dire. On connaît ça à toute époque. C'est le cas aussi à Rome, y compris dans le milieu de la curie romaine, donc du clergé, où on peut afficher certaines convictions, mettre à l'index, interdire certains types d'ouvrages, mais les collectionner à titre privé, ça n'empêche pas.
Ah d'accord, ok.
Oui.
Oh non, mais oui, comme ça, oui, c'est faisable. Et du coup, ces œuvres, alors détruites, qui ne plaisaient pas à Rome, c'est détruit justement par l'Église, par des particuliers, par...
Elles ne plaisaient pas, mais elles plaisaient quand même, parce que Poussin peint ses œuvres pour des marchands qui les écoulent. Et il les peint quasiment en série, en reprenant des prototypes, notamment des corps de femmes qu'il duplique d'une toile à l'autre. Donc, ces compositions connaissent un certain succès. C'est interdit, ce genre de représentation, où l'on voit des nymphes, des satyres se donner du plaisir, hein, en position de voyeuriste ou en position d'être observé. Mais ça a trouvé acheteur tout de même. D'accord. Et oui, il y a eu des destructions. On a des témoignages de contemporains, en particulier l'un qu'on aime citer, d'un grand collectionneur français du XVIIe siècle, Loménie de Brienne, qui disait qu'il avait acquis une Vénus de Poussin, qu'il jugeait, c'est le terme qu'il emploie, immodeste. Et donc, il l'a fait découper, hein, toute la partie basse et repeindre la partie haute. Donc, autant dire qu'il n'en restait pas grand-chose.
Oui, parce qu'il y avait ça. Parfois, il repeignait des habits par-dessus pour cacher. Mais donc, on se dit que les gens sont quand même rentrés dans une espèce de cercle un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas, après
oui,
tout.
Oui. Bah, à l'entrée de l'exposition, il y a une œuvre qui a été restaurée pour l'exposition, une œuvre du musée du Louvre, dans laquelle on a enlevé ce qu'on appelle des repeints de pudeur, donc des repeints
des culottes,
drapés. Mais ça nous a d'autant plus surpris que pour une fois, ce n'était pas les sexes ou les fesses de femmes, mais des attributs d'angelots, très innocents, et même la poitrine d'un poète qui lui porte une chemise, donc qui n'était pas très découverte. Mais il faut savoir que cette œuvre a appartenu au XVIIIe siècle à une femme qui avait une vie assez...
Libre,
mais qui a embrassé dans un second temps dans sa vie le parti dévot, donc qui est devenue très prude, alors qui a voulu
rattraper
cacher
un peu.
Sein que l'on ne voulait voir.
Et justement, alors cette exposition, elle démarre autour d'une pièce très importante que le Musée des Beaux-Arts a acquis, c'est ça, en 2016.
Oui, une pièce capitale. Pour nous, évidemment, Lyonnais, hein, pour le musée, puisqu'elle a été peinte à Lyon pour un Lyonnais lorsqu'il séjourne à Lyon. Il séjourne à Lyon en 1622, mais aussi pour les historiens d'art, parce que c'est l'une des deux seules œuvres connues qu'il ait peinte juste avant de partir à Rome. Donc ça nous permet de découvrir ce peintre avant qu'il subisse les influences majeures découvertes à Rome. Et c'est une œuvre d'une audace extrême, qui n'a pas d'équivalent à l'époque, pas d'antécédent.
Le tableau, c'est la mort de Chionnet.
C'est la mort de Chionnet. Alors, c'est un sujet très rare. pour faire court, Kyoné est une femme...
mortelle.
C'est enfin, une mortelle.
Oui,
c'est,
voilà, je...
C'est
mortelle dans le
et
sens...
Qui est même morte dans le tableau, qui a été d'une beauté, nous raconte Ovid dans les Métamorphoses, telle que deux dieux s'en éprennent, les deux la violent, hein, Apollon et Mercure, des jumeaux naissent de cette union, et elle, la malheureuse, se prévaut de sa beauté, dit qu'elle est plus belle que la déesse Diane, et elle est punie par où elle a fauté, c'est-à-dire la langue. Et Diane décoche une flèche à travers cette langue, et Ovid nous dit, d'un seul mouvement, elle perdit sa voix, son sang et sa vie. Donc c'est une agonie, un cadavre qui nous est proposé, mais un cadavre nu, dans une vision très frontale et avec un sexe qui est vraiment le pivot de sa composition. C'est au centre de la composition. Donc c'est d'une audace extrême, une œuvre à la fois érotique et morbide, sans équivalent. Donc un peintre qui est déjà très inventif, très audacieux.
Et c'est, donc cette exposition part de ce tableau que le Musée des Beaux-Arts a eu en 2016 et elle se découpe en cinq parties.
Oui, tout à fait. Le parcours... se découpe en cinq sections et il n'est pas chronologique.
D'accord.
On débute certes avec la première œuvre connue de Poussin, donc peinte à Lyon en 1622. Elle s'achève par une œuvre très émouvante, l'une de ses dernières œuvres qu'il livre inachevée juste un an avant sa mort en 1664. Et entre-temps, ce sont des thèmes qui vont animer la visite, hein, celui du corps désiré, celui de... des bacchanales, parce que les plaisirs de la chair vont de pair avec les plaisirs de la boisson, l'ivresse, tout à fait. C'est ce que nous disent déjà Virgile et Ovide dans l'Antiquité. L'amour et la mort, parce qu'on sait bien, les deux sont liés. Étroitement liés. Et enfin, une dernière section pour redonner du baume au cœur.
Oui, c'est bien
visiteurs.
Qu'on
ne
termine pas sur le...
Non. qui nous rappelle que l'amour, c'est cette puissance... universelle, cette toute puissance universelle qui régit le monde, qui permet la régénération de la nature, de l'humanité à travers les cycles des naissances et qui succèdent aux morts.
Merci beaucoup, Lyudmila Virasa Minaïken, conservatrice en chef du patrimoine au Musée des Beaux-Arts de Lyon, d'être venue nous parler de l'expo Poussin et l'amour, à voir jusqu'au 5 mars. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a une deuxième exposition qui montre l'héritage que Poussin a laissé. Elle s'appelle Picasso, Poussin et Bacchanal. Alors c'est un petit peu plus une interrogation sur l'héritage de Poussin dans les œuvres de Picasso. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et là aussi, c'est jusqu'au 5 mars.
Jusqu'au 5 mars.